Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, Accent d'Europe aujourd'hui au Portugal et en Espagne, où deux visions s'opposent en matière d'immigration. Mais d'abord, le Sommet international pour l'intelligence artificielle a ouvert ses portes à Paris. Et nous allons voir en Irlande comment les enseignants préparent son arrivée dans les salles de classe. Bienvenue à toutes et tous. L'Europe veut faire entendre sa singularité dans la course à l'intelligence artificielle. L'IA, c'est un défi technologique, sécuritaire, mais c'est aussi un enjeu en matière de démocratie et d'intérêt général. 1500 participants sont à Paris aujourd'hui et demain pour aborder toutes ces questions. Tous les secteurs de la société sont concernés et donc l'éducation ne fait pas exception. En Irlande, les enseignants n'ont pas l'intention de se laisser distancer par leurs élèves. Reportage à Dublin, Clémence Pénard.
À DCU, Dublin City University, on mise sur la formation des formateurs. 2 heures d'atelier toutes les semaines où de futurs professeurs en apprennent plus sur l'intelligence artificielle dans l'optique de l'intégrer à leur propre cours. C'est le cas de Philippe, 30 ans, qui sera bientôt diplômé et qui va devenir prof au collège.
Aujourd'hui, les éducateurs doivent se familiariser avec l'intelligence artificielle et ses avantages et l'utiliser sans hésitation. Après tout, nous vivons à l'ère du numérique. Chaque élève en classe a un téléphone portable et ils savent mieux s'en servir que nous. Plutôt que de les en priver, il vaut mieux leur apprendre à utiliser ces outils de façon intelligente et adaptée à l'apprentissage.
Ces ateliers ont été lancés il y a quelques mois à travers le pays. Selon Eamon Costello, professeur associé en apprentissage numérique qui anime le workshop d'aujourd'hui, une centaine d'enseignants jusqu'à présent y ont participé.
Il y a une énorme demande de la part des enseignants à tous les niveaux, du primaire aux études supérieures.
Et les professeurs qu'Eamon a rencontrés souhaitent intégrer l'IA dans leur classe, mais ils ont besoin de plus de soutien pour le faire en toute confiance.
Ce qui les inquiète le plus, c'est de voir leurs élèves utiliser l'IA pour faire leurs devoirs. C'est la grande crainte. Et en Irlande, nous avons un peu délaissé les examens en donnant plus de travaux de groupe et de devoirs à la maison. Donc aujourd'hui, ça se complique avec l'émergence de ces machines qui nous facilitent la vie.
L'idée est donc de permettre aux professeurs de guider au mieux leurs étudiants dans l'utilisation critique des outils d'intelligence artificielle, comme nous l'explique Nicolas, en pleine reconversion pour devenir professeur aussi, après plusieurs années passées dans la finance.
Ça peut vraiment vous empêcher de réfléchir par vous-même. Est-ce qu'on ne risque pas de devenir trop dépendant de l'IA ? Il faut donc être prudent et ne pas avoir peur d'utiliser son cerveau pour réfléchir. On ne veut pas perdre cette compétence. C'est un peu comme l'écriture manuscrite qu'on ne veut pas perdre non plus.
Le risque de dépendance aux outils numériques concerne aussi les professeurs. Et l'IA pose d'autres problèmes, comme par exemple le risque de biais algorithmiques et donc des erreurs dans les connaissances et la protection également des données des élèves. Mais pour tous les futurs formateurs ici présents, le plus grand risque serait de passer à côté de l'IA. Philippe et Nicolas se veulent rassurants.
Je ne crois pas que l'interférence informatique remplacera un jour la présence d'une personne physique dans la salle de classe, car il y a aussi une composante sociale dans l'éducation. Cela ne se résume pas à la transmission de connaissances, il y a tellement d'autres facteurs.
On ne peut pas balayer l'IA sous le tapis. Ah non, on ne peut pas faire ça. Nous devons rester ouverts à apprendre à l'utiliser. C'est très important de savoir de quoi il s'agit et peut-être d'établir une sorte de contrat avec les élèves pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde quant à son utilisation. Nous, on peut aussi l'utiliser pour nos idées et nos plans de cours. C'est vraiment comme un outil d'édition. Il modifie ce que vous avez créé pour que ce soit plus succinct et plus fluide.
Pour ces futurs enseignants volontaires pour participer à cette formation, l'IA permet par ailleurs de personnaliser l'apprentissage en adaptant les exercices au niveau et au rythme de chaque élève, ou encore elle peut rendre leurs cours plus dynamiques et captivants, selon Sophie, elle déjà enseignante auprès de jeunes élèves.
Moi, ça m'aide à être plus créative dans mes cours. L'année dernière, je devais organiser des activités en plein air. J'ai demandé à ChatGPT, en lui donnant le sujet du cours, comment je pourrais rendre la journée la plus interactive possible, comment la rendre amusante pour mes élèves. Et c'est pareil pour les cours en classe.
Alors l'éducation doit-elle investir davantage dans l'intelligence artificielle pour mieux accompagner les enseignants dans cette transition? Pour beaucoup d'entre eux, ce type de formation est essentiel pour qu'ils puissent préparer leurs élèves à un avenir où ces technologies joueront un rôle central. Et c'est d'autant plus vrai en Irlande où de nombreux futurs employeurs, notamment les géants de la tech installés à Dublin, cherchent dès à présent une main-d'œuvre hautement qualifiée dans ce domaine.
L'Union européenne en pointe sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Les 27 ont en effet la plus ambitieuse législation au monde. Et hasard des calendriers, les premières dispositions de ce règlement IA sont appliquées depuis le 2 février. Bonjour Frédéric Lebel.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Le déploiement du texte va s'étaler jusqu'en août 2027.
Oui, et c'est un texte qui a pour ambition de replacer l'humain au centre du dispositif en lui procurant de nombreux garde-fous. Première disposition déjà en vigueur, l'interdiction de toutes les pratiques qui ne respectent ni la dignité humaine, ni nos valeurs démocratiques. C'est un peu l'opposé de la législation chinoise sur l'IA, on va dire. Interdit donc d'avoir recours aux techniques subliminales pour influencer un utilisateur. Interdit aussi de constituer une base de données de reconnaissance faciale, interdit de classifier les individus en fonction de leur comportement ou de leurs idées, ce qui pourrait aboutir à un système de notation sociale, interdiction des procédés de police prédictive. Mais il y a aussi beaucoup d'exceptions à ces interdictions, par exemple l'identification des individus en direct dans les espaces publics où le système de reconnaissance des émotions est interdit, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité. Le dispositif a donc été amplement utilisé pour la sécurité des Jeux Olympiques à Paris pour déjouer le risque terroriste.
Mais la législation ne fait pas qu'interdire des applications, elle vise aussi à encadrer les IA existantes ou en projet.
Oui, tout d'abord, il y aura une obligation de signaler expressément tout contenu généré par l'IA. Les entreprises de la tech devront donner accès à leur documentation technique sur la manière de gérer les risques. Les sociétés devraient aussi donner accès à leurs données d'entraînement. Le sujet est, on l'imagine, très conflictuel. Les créateurs entendent défendre le droit d'auteur, les sociétés, le secret industriel. Tous les domaines de l'économie et de la société seront impactés et on sent bien les immenses bouleversements qu'il va falloir encadrer dans la sécurité de l'aviation civile, l'éducation, la police, sans oublier la médecine. La France a beaucoup plaidé lors des discussions pour que le cadre légal ne vienne pas étouffer l'innovation, d'où les nombreuses exceptions qui ont été accordées, notamment pour l'utilisation de l'IA à des fins de recherche médicale ou de répression policière.
Et quels seront les outils pour faire respecter cette réglementation?
Tous les États devront faire appliquer ce texte par le biais d'organismes déjà existants comme la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté en France. Le non-respect des règles peut entraîner des amendes allant de 3 à 7% du chiffre d'affaires mondial dans la limite de 35 millions d'euros. Mais comme on le sait, concernant les précédentes législations européenne, Donald Trump entend soutenir les patrons de la tech qui veulent défier l'Europe en contestant ces nouvelles normes et en refusant de payer les amendes.
Merci Frédéric Lebel. Au Portugal, le gouvernement supprime l'accès au système de santé publique des immigrés en situation irrégulière. La loi limite désormais leur prise en charge aux urgences vitales. Le texte résulte d'un rapprochement politique entre la droite et l'extrême droite. Dans le corps médical, de nombreux praticiens dénoncent les conséquences d'une telle décision, pour les intéressés bien sûr, mais aussi pour la santé publique en général. Reportage à Lisbonne, Marilyn Darcy.
À l'hôpital San José, les urgences font face à l'épidémie de grippe. L'effervescence contraste avec le calme relatif du service de neurologie critique. Le docteur Bruno Maia est l'un des 1000 signataires de la lettre ouverte contre la loi qui restreint l'accès aux soins des immigrés sans papiers.
Si j'ai une bonne mémoire, c'est la première fois dans le système de santé publique que le traitement des malades est limité par la réglementation. Je n'avais jamais été confronté à ce genre d'obstacle à l'accès aux soins et de nombreux collègues non plus. On ne peut pas accepter ça. Nous avons un code déontologique, nous avons prêté le serment d'Hippocrate et nous observons des règles éthiques séculaires qui nous disent de traiter tous les malades dans la justice et l'égalité.
Les médecins jugent la mesure contre-productive car elle autorise l'accès aux urgences, quel que soit le statut, mais exclut les immigrés sans papier des autres services. Le neurologue Bruno Maya.
En clair, les gens qui ont déjà des traitements, les patients atteints de maladies chroniques, n'auront plus accès aux médecins de famille pour leur suivi. En revanche, ils pourront se rendre aux urgences pour soigner les complications de leur maladie chronique qui risquent de survenir. Ce n'est pas très intelligent, ni pour la santé du malade immigré, ni pour le service public, car on dépense plus d'argent dans le traitement des complications d'une maladie chronique que dans la prévention et le traitement initial.
Signataire de la lettre à titre privé, Johanna Sava, responsable de la FNAM, la grande centrale syndicale de la Corporation des médecins, dénonce les dérives. Elle redoute les conséquences sur la santé publique.
Cela peut avoir un impact, par exemple sur la mortalité infantile ou les performances globales de la santé publique. Et si concrètement le fait de bloquer l'accès aux soins d'une partie de la population a un impact sur l'ensemble de la société, alors ceux qui sont à l'initiative de ces mesures devront assumer leurs responsabilités.
Vai ser inteiramente responsável por ela.
La loi a été approuvée en décembre 2024 à la faveur d'un rapprochement entre la droite démocratique au pouvoir et l'extrême droite. Pour le neurologue Bruno Maia, cette affaire politique est inquiétante.
C'est clair, c'est une évidence pour tout le monde au Portugal que la proposition gouvernementale est électoraliste et dictée par la montée de Chega. Ce n'est pas autre chose. Le problème, c'est que l'aile droite du Parti social-démocrate et les démocrates chrétiens vont sur le terrain de l'extrême droite. Au lieu de l'affronter et de la combattre, ils s'en rapprochent et appliquent des politiques d'extrême droite. C'est le fond du problème.
Dans le quartier Martimoniche, le quartier des immigrés du centre de Lisbonne, l'effervescence est habituelle. Mais les communautés s'inquiètent. Shiv Singh est le dirigeant de l'association Casa da India, la maison de l'Inde. Il estime que les sans-papiers ne sont pas responsables de la situation.
Nous savons très bien que de nombreuses personnes n'ont pas de permis de séjour. Il y a de nombreux retards de la part de l'administration qui traite les demandes et beaucoup de bureaucratie. Vérifier les passeports, les casiers judiciaires, ça prend du temps ici au Portugal. Sans oublier que c'est très cher la régularisation, comptez 400 euros. Or pour une famille, c'est 1600 euros dans un pays où le SMIC est inférieur à 900 euros. En clair, ceux qui souffrent déjà vont souffrir encore plus. C'est mauvais du point de vue humain et du point de vue démocratique.
Et du point de vue démocratique, un peu absurde.
Shiv Singh, qui vit et travaille au Portugal depuis 16 ans, où il a fondé une famille, connaît bien les problématiques de l'immigration, mais il s'inquiète de la tournure que prennent les choses.
On est très préoccupés. Le Portugal est l'un des pays les plus pacifiques au monde, mais la situation nous inquiète car avec ce genre de mesures, les gens vont mettre tout le monde dans le même sac. Je ne dis pas que tous les immigrés sont exemplaires, certains créent des problèmes. Mais pour ça, on a des policiers, des tribunaux. C'est le travail des autorités. Ce n'est pas à nous de juger qui doit faire partie de notre société.
Le Portugal accueille 1 million et 200 000 immigrés, dont un gros tiers n'est pas régularisé. En 2023, ils ont cotisé à hauteur de 2 milliards d'euros à la sécurité sociale. Sans eux, le système de santé serait dans de plus grandes difficultés encore.
En Espagne, le socialiste Pedro Sanchez suit le chemin inverse. Il a rétabli dès 2018 l'aide médicale aux étrangers, sous condition. Cette aide avait été supprimée par le précédent gouvernement conservateur. Mais le Premier ministre est allé encore plus loin avec l'adoption au printemps dernier de la loi d'universalité de l'accès aux soins. À Madrid, les explications de Diane Cambon.
C'était une des promesses de Pedro Sanchez, garantir le système de santé universel en Espagne, y compris pour les immigrants clandestins. Celle-ci avait été supprimée en 2012 pour faire 500 millions d'euros d'économies. À l'époque, le pays sortait tout juste d'une grave crise financière. Or, les supposées économies n'ont jamais été démontrées durant les années où le dispositif d'accès gratuit avait été supprimé. Au contraire, selon une étude de l'Université de Barcelone publiée en 2018, le coût des soins avait augmenté. La prise en charge trop tardive de certaines pathologies, notamment aux urgences, revenait plus cher. Mais surtout, cette mesure avait eu un effet catastrophique sur les personnes sans papiers. Le taux de mortalité avait augmenté de 15 à 20% chez les migrants en situation irrégulière. L'étude catalane souligne le risque épidémiologique. Elle a constaté une hausse des cas d'hépatite B et de la mortalité liée au virus du sida, de nombreux clandestins n'ayant plus accès au traitement.
L'immigration est au cœur de la campagne électorale en Allemagne, où le premier débat télévisé entre le chef des conservateurs et le chancelier sortant s'est tenu hier soir, à 2 semaines des législatives du 23 février. Olaf Scholz y a critiqué sévèrement les projets de son très probable successeur, Friedrich Merz. Ce dernier s'est appuyé sur l'extrême droite au Parlement. Il a certes affirmé qu'une alliance avec l'AfD n'aurait pas lieu, mais ses positions créent des turbulences, Anastasia Becchio.
Oui, sa décision de s'appuyer par deux fois sur l'extrême droite pour tenter de faire passer au Bundestag des textes contre l'immigration a brisé un tabou. Jusque-là, les partis traditionnels refusaient toute alliance au plan national avec l'AfD. Mais cette stratégie est risquée selon Éric-André Martin, spécialiste de l'Allemagne.
En choisissant de mettre l'accent sur l'immigration de la façon dont il l'a fait, il a suscité des réactions hostiles dans l'opinion et notamment des manifestations importantes dans le pays, notamment à Berlin. Il polarise. Et il rendra les choses plus difficiles pour lui s'il ressortait victorieux des élections. En ayant des positions comme celles qu'il adopte, ça ne facilitera pas les choses.
Friedrich Merz et son Union chrétienne-démocrate restent malgré tout favoris des sondages.
La CDU-CSU continue de mener la course en tête, mais en faisant adopter une motion non contraignante sur l'immigration avec l'aide de l'extrême droite, elle semble avoir perdu des points de 34-35% d'intention de vote. Elle est aujourd'hui à 29-30%. Face aux critiques, Friedrich Merz reste droit dans ses bottes.
La grande majorité de la population est d'accord avec nous. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Par exemple, en matière de politique migratoire, la minorité sociale et politique de plus en plus petite en Allemagne se bat désespérément pour conserver son pouvoir de décision dans notre pays.
Pourtant, les prises de position de Friedrich Merz divisent jusqu'au sein même de la CDU.
À cette occasion, sa vieille rivalité avec Angela Merkel a refait surface. L'ancienne chancelière est sortie de sa réserve pour dénoncer le tournant pris par la droite allemande. Par ailleurs, 12 élus de la CDU ont refusé de voter un deuxième texte vendredi. Mais bien au-delà des tiraillements entre les divers courants du parti, Friedrich Merz doit s'attendre à ce que la constitution de coalition avec l'opposition soit délicate, prévient le politologue allemand Werner Patzelt, membre de l'aile droite de la CDU.
Ça seront des négociations assez dures parce que les sociodémocrates savent que l'Union n'a pas d'alternative. Donc le poids des sociodémocrates sera très important et l'Union risque de ne pas effectuer la plupart de son programme politique.
Un programme qui est très différent de celui de ses potentiels partenaires de coalition.
La CDU de Friedrich Merz porte un programme libéral au plan économique et conservateur au plan social, radicalement opposé à celui des sociaux-démocrates sur la quasi-totalité des sujets nationaux. Parmi les mesures adoptées au congrès de la CDU lundi dernier, le renvoi de tous les étrangers qui se présentent sans papier à la frontière, y compris les demandeurs d'asile, et les placements en rétention illimitée d'étrangers délinquants. Ces projets risquent de se heurter aux droits européens. Si l'élu rhénan de 69 ans a toujours été profondément européen, sur cette question de l'immigration comme sur d'autres, il risque d'être en opposition à Bruxelles. Éric-André Martin.
Là où il peut y avoir des tensions avec ses partenaires européens et notamment la France, c'est sur les questions financières. Je pense qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre qui est la sienne ne lui permettra pas ou difficilement d'être ouvert à des questions de financement commun. Et il va devoir aussi produire des résultats. Il aura une forte pression et donc ça réduira sa marge de manœuvre. Il sera moins enclin au compromis et à la discussion sur des questions européennes qui ne seront pas pour le moment prioritaires par rapport à l'agenda purement national qui sera le sien.
Mais pour mettre en œuvre ces priorités, il faudra auparavant obtenir un bon score à l'élection. Et pour l'instant, le gagnant des turbulences, c'est l'AfD qui conforte sa deuxième position dans les sondages.
Merci Anastasia Becchio, à bientôt. Accent d'Europe était réalisé par Théo Raison. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, et sur l'appli Pure Radio. Mais d'ici là, restez avec nous, l'info continue sur RFI.